soir.
Le président Joseph Kabila annonce que la République démocratique du Congo est un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour. Le chef de l'État l'a dit hier lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient depuis mercredi à New York. Les groupes parlementaires UDPS et Alliés ainsi que UNC et Alliés décident de ne plus prendre part aux plénières qui se pencheront sur l'organisation des élections ou sur la révision constitutionnelle. Tels sont les thèmes de ce soir dans Souligne de la presse. Nous avons dans cette émission Mme Solange Lusikou-Simiré, elle est éditrice du journal Les Souverains, paraissant à Bukavu Sud Kivu et désigne vice-présidente nationale de l'UNPC. Bonsoir Mme Solange Lusikou-Simiré.
Bonsoir chers confrères.
Paul Diakessé, journaliste indépendant. Bonsoir Paul Diakessé.
Bonsoir Guy Mapi.
Et Luc Mikomo Kabunga, éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial des CIGNIS, Association des communicateurs catholiques. Il est aussi journaliste à la télévision Congo Web. Bonsoir Luc Mikomo Kabunga.
Bonsoir Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission. Kabila confirme la tenue des élections l'année prochaine selon le calendrier de la CENI. L'UDPS et Alliés ainsi que l'UNC et Alliés boycottent les plénières sur les élections et la révision de la Constitution. Comment la presse a analysé cette actualité? Suivons cette revue de presse que nous présente Berry Franklin Luchaka.
Bonsoir à tous. La revue de presse hebdomadaire est marquée par l'allocution du chef de l'État à la tribune des Nations Unies jeudi et aussi la décision de l'UDPS et Alliés et UNC et Alliés de boycotter sa participation aux plénières de l'Assemblée nationale à cause des matières à traiter lors de cette session. En rapport avec le discours du président de la République à la 69e Assemblée générale de l'ONU, le Phare note ce vendredi que le président Joseph Kabila a vanté l'expérience de la RDC en matière de la lutte contre les épidémie Ebola. Forum des As et La Prospérité, deux quotidiens quinois aussi, ont relayé l'allocution du président Joseph Kabila jeudi aux Nations Unies en signalant qu'il a réclamé une place pour l'Afrique parmi les permanents du Conseil de sécurité. Argument avancé selon La Prospérité. En ce qui est de la décision de l'UDPS et Alliés et UNC et Alliés, le Phare titrait lundi « L'opposition retire ses représentants à la CENI ». Tout est parti selon ce quotidien du vendredi dernier quand la plénière a adopté l'ordre du jour de la session d'octobre. Celui-ci prévoit le point relatif à la révision de certaines dispositions de la Constitution et de la loi portant organisation des élections à tous les autres niveaux. Pour sa part, la tempête des tropiques rebondissait sur le même sujet et renseignait que les groupes parlementaires UDPS, Alliés et Partenaires, ainsi qu'UNC et Alliés, ont rappelé que, je cite, « les participants à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale tenue le 17 septembre dernier, ont constaté que la proposition de loi relative à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été déposée au bureau de cette chambre législative au mois de mai 2012. Fin de citation. Cette proposition de loi initiée par le député national Sesanga Ipungu Deli était inscrite au point 7 de l'avant-projet de calendrier de la session ordinaire en cours, alors que les projets de loi avant-projet de calendrier figure dans la rubrique « Nouvelles matières ». Enfin, le potentiel révèle que pour l'opposition qui se dit surprise avec certains membres de la majorité présidentielle qui ont requis l'anonymat, le bureau de l'Assemblée nationale a passé outre l'option de mise sous réserve des 5 points querelles, ce qui apparaît comme une véritable tentative de passage de force, a indiqué le député national Sami Badibanga, président de l'UDPS et allié, rapporté par Le Potentiel.
Merci Berry Franklin Luchaka. Un petit commentaire pour Paul Diakessé, journaliste indépendant. L'actualité, c'est aussi cette affirmation du gouvernement qui estime que la RDC est sur le point de maîtriser l'épidémie d'Ebola, et cela a été même confirmé hier par les chefs de l'État à New York. Mais de son côté, l'OMS dit qu'on ne saurait à ce stade faire des prévisions sur l'évolution ou l'endiguement éventuel de la poussée épidémique.
Je pense qu'il ne faudra pas que, il faudra pas seulement s'arrêter à déclarations officielles. Lorsque on parle d'Ebola, peut-être que la fois passée on l'avait dit, et je me rappelle que Luc avait ajouté des éléments révélateurs. Ce qui a plus attiré l'attention, c'est ces ballons d'essai que le chef de l'État a lancé en direction d'un monde international, en disant que la RDC va créer un centre d'études, mais également de formations pour les techniciens, mais également des agents qui peuvent travailler autour de la maladie d'Ebola. Mais j'ajouterai un autre aspect, c'est qu'il manque jusque-là une certaine vérité, parce que nous souhaiterons également avoir des images sur les malades, sur ceux qui sont guéris, les conditions dans lesquelles ils sont traités. Et n'oublions pas que MSF a publié un communiqué selon lequel, d'ici le mois de décembre, si rien n'est fait, nous risquons d'avoir 20 000 cas de personnes touchées par Ebola.
Et ça, c'est en Afrique, hein, en Afrique de l'Ouest.
En général.
Voilà. Luc Mikomo Kamonga, tu es éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial des CIGNIS, Association des communicateurs catholiques. Vous êtes aussi journaliste à Congo Web Télévision. L'actualité, c'est aussi cette journée internationale de la paix qui a été célébrée le dimanche dernier à Goma, au Nord Kivu.
Oui, oui, j'ai suivi les concerts, le bal qui a été donné, la manière dont les gens étaient contents. Ils ont dansé, ils ont chanté, ils ont transpiré. Je me demande quel impact réel peut avoir une manifestation dansante sur une réalité qui touche des populations dans leur chair et dans leur corps. Chanter, c'est bien. Danser, n'en est pas moins. Mais quelles sont les mesures précises que l'on a prises pour que la paix ne soit plus une exaltation dansante, mais qu'elle soit une réalité vivante, d'abord par les victimes de l'intolérance, les victimes de la barbarie, les victimes de la bêtise humaine. Ça, je n'ai pas beaucoup vu. Mais peut-être on a récolté, mettons, 2000 dollars pour assister les victimes de toutes sortes d'abus dont l'homme est l'auteur. Mais est-ce que cela suffit pour véritablement mettre en place une stratégie pour qu'une paix solide ne soit pas seulement vécue de manière virtuelle, mais qu'elle soit vécue de manière réelle? Ça, je n'ai pas vu.
Et de manière durable aussi.
Durable, si tu veux.
Et voilà, un mot par rapport à cette guerre des communiqués entre le gouvernement congolais qui estime qu'il est sur le point de maîtriser l'épidémie d'Ebola et l'OMS qui dit qu'il est prématuré de faire de telles affirmations actuellement.
Ben, Paul l'a dit la fois dernière, j'avais dit que il est indéniable que le gouvernement s'implique, conjugue les efforts pour maîtriser le virus d'Ebola. Mais qu'il serait trop osé de dire de manière anticipative qu'on a maîtrisé.
On est sur le point de maîtriser.
Oui, qu'on est sur le point de maîtriser. Sur le point, ça veut dire que on a des éléments probants qui prouvent que nous sommes en passe d'avoir prise sur l'Ebola. Mais j'ai fait constater la fois dernière que lorsqu'on est sur le point de maîtriser une pandémie, le premier indice, c'est que il ne doit plus y avoir une augmentation des chiffres des victimes. S'il y a augmentation des chiffres des victimes, c'est qu'il y a quelque part des éléments ou des données qui vous échappent, que vous ne maîtrisez pas. Définir le mot maîtriser, c'est avoir le contrôle de tout le contour, c'est ça. Mais est-ce que vraiment on peut, au stade actuel, prétendre être sur le pas des maîtriser tant que le chiffre des victimes ne fait qu'augmenter?
Merci Madame Solange Lusiku Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu Sud-Kivu, et deuxième vice-présidente nationale de l'INPC. Un mot par rapport à cette guerre des communiqués entre le gouvernement congolais et l'OMS sur l'épidémie d'Ebola.
Je pense que c'est vraiment une guerre des communiqués, mais je pense que d'un côté, il y a ce manque-là de confiance en nous, les Congolais, qui fait que l'OMS ne croit pas et pense toujours que ce qui est avancé par le gouvernement congolais soit un peu pris à la hâte. Moi, je pense que si c'était un pays de l'Occident qui le disait par rapport aux résultats obtenus sur le terrain, l'attitude de l'OMS ne serait pas la même que celle que nous voyons là. Ce que moi, j'ai retenu comme leçon par rapport à cela, c'est que nous, Congolais, d'abord, nous devons beaucoup plus applaudir les résultats sur le terrain par rapport à la lutte et contre l'Ebola, mais également nous devons éviter et refuser même l'autoflagellation. Nous savons que les Congolais, nous avons maintenant la culture de nous autoflageller à tout moment. Nous devons quand même comprendre et accepter que par rapport à d'autres pays qui ont été secoués par l'épidémie d'Ebola, au moins la RD Congo se comporte bien. Mais de l'autre côté, nous devons également éviter l'autosatisfaction. Parce que nous devons rester en alerte, comme le disait mon confrère. Nous ne devons pas penser que nous sommes vraiment à l'étape où nous sommes en train d'élaguer l'épidémie d'Ebola, mais nous devons rester en alerte pour que de nouveaux cas ne puissent pas se prononcer.
Oui, pasteur Diakassé, vous avez un mot à ajouter?
Juste un petit mot pour dire que tout en applaudissant tous les communiqués officiels de notre gouvernement, on ne peut pas vilipender le gouvernement, prendre parti pour l'OMS et mettre le gouvernement de côté. Il faudra que nous, en tant que médias, en tant que journalistes, nous puissions pas nous fier seulement à ce que l'officiel donne comme information. Allons-y sur place. Nous serons très contents si Okapi allait sur place, parler avec les malades, avec le médecin et les images des autres. Alors, s'il faut seulement s'arrêter à l'officiel, accompagner les ministres, nous n'aurons pas les vrais faits sur l'Ebola à Bouindé.
Merci. Notre premier thème de ce soir, le président Joseph Kabila annonce que la République démocratique du Congo est un pays debout, un pays où la paix est retrouvée, se consolide chaque jour. Le chef de l'État l'a dit hier lors de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient depuis mercredi à New York. Joseph Kabila a évoqué d'autres questions nationales. Il a notamment affirmé la tenue des élections l'année prochaine selon le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Suivons cet extrait de la déclaration de Joseph Kabila sur la RTNC.
Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage. Un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie, et de réserves de change en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction, où routes, écoles, hôpitaux, infrastructures diverses sont construites en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Toutes les dispositions sont prises pour que notre pays en sorte plus apaisé, plus uni et plus fort.
Paul Diakassé, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Comment vous analysez ces discours du chef de l'État à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York?
Dis-moi que je ne veux pas revenir sur ce que d'autres confrères ont dit à travers la presse écrite, la télé, la radio. Moi, il y a trois choses que je retiens de ces discours. La première chose, c'est que les clichés de reporters qui sont sur place, peut-être qu'il faudra, nous, en tant que médias, en tant que journalistes, nous avons aussi cette mission d'information, mais également de la formation des auditeurs et téléspectateurs, et également nos lecteurs. Il faut dire que le président Kabila n'était pas invité, c'est pas une visite officielle ou visite d'État aux États-Unis. Donc c'est une assemblée générale ordinaire où tous les présidents sont là, même les présidents le banni du monde sont là, sauf peut-être El Béchir parce qu'il y a un mandat d'arrêt international pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc le discours, c'est pas un discours extraordinaire, c'est ordinaire. C'est 15 minutes pour chaque président, etc., etc. Donc, il faudra pas qu'on focalise ce discours comme étant le Congo maintenant est reconnu, voilà Kabila, tapis rouge. Non, c'est dans l'ordre des choses. Deuxième chose que j'aimerais retenir, Mathé, c'est que tous les Congolais, notamment ceux qui étaient d'abord aux Aïwa, comme Luc, Mikombe, moi-même, mais peut-être toi, vous, Guy Mathé, nous sommes nostalgiques du grand discours de Mobutu. Mobutu a fait un grand discours un certain 4 octobre 1973, et ce discours a intervenu à un moment de la guerre froide, le contexte est très favorable à Mobutu. Et d'ailleurs, c'est une année après que nous avons eu le combat à l'Iforman, nous avons été en Coupe du Monde. Donc le Congo, le Zaïre était un pays qui avait beaucoup d'étincelles à travers le monde. Alors ce discours-là a fait date, parce qu'en fait il a dénoncé le colonialisme, il a pris parti pour le Zimbabwe, il a contre l'apartheid, etc. Il a même dit qu'il a appuyé l'Égypte par rapport à Israël. Alors ce discours est resté. Je pense que nous avons encore envie qu'on ait un tel discours d'un président congolais aux Nations Unies.
Donc, il faut reconnaître que les contextes ne sont pas les mêmes. Hein?
Tout à fait, mais je l'ai souligné, bien entendu. Mais on peut aussi créer les contextes soi-même selon son dynamisme. Alors, troisième chose que j'ai prévue pour le discours, là sur le fond, nous avons eu l'impression que le président Kabila n'a pas dit grand-chose, surtout qu'il n'a pas parler de là où on voulait qu'il parle. C'est vrai qu'il a proposé un centre d'Ebola. Ça, c'est une innovation. Il faut saluer cela. C'est une grande première. Mais également, pour les élections, il dit qu'il y aura des élections au Congo, selon le schéma de la CENI. Le schéma des Malou Malou. Oh, c'est Malou Malou, il est honni. Une bonne frange de la classe
politique. Et vous auriez souhaité qu'il dise quoi?
Je vais terminer. Une bonne frange des politiques qui ne partagent plus son avis, qui demandent son départ, y compris l'Église catholique. Donc, le président a laissé les Congolais dans leur soif, tout en sachant quel type d'élection parle-t-il. Et on aurait souhaité qu'il dise un mot sur 2016. Malheureusement, il n'a pas dit.
Luc Mikombo Kabonga, éditeur du journal Nouveau Regard et président provincial des CIGNIS, Association de communicateurs catholiques, et aussi journaliste à la télévision Congo Web. Joseph Kabila annonce que la RDC est un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour. N'a-t-il pas raison lorsqu'on voit l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain?
En fait, contrairement un petit peu à ce que vient d'affirmer mon confrère Paul, moi, je pense que Kabila, à la 69e session des Nations Unies, s'est inscrit dans la logique de la communauté internationale pour vendre la RDC. Et là-dessus, il faut être honnête. Il faut savoir que Kabila a bien joué son jeu. Et vous avez vu, quand il réclame une place de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est applaudi. Alors, il est bien vrai que l'opinion est restée sur sa soif. D'abord, je dois vous dire, Guy, que le discours du président contenait 1328 mots. En 1328 mots...
Vous les avez comptés?
Je les ai comptés. Il a utilisé 5 fois les termes international ou des adjectifs issus de l'international. Une fois, planète. 5 fois monde. Il a utilisé 3 fois le mot humanité. Mais il a utilisé 21 fois le mot République démocratique du Congo ou des adjectifs y afférents. Donc vous voyez que il est parti de ce qui fait l'actualité sur le plan mondial, et il a signalé par ailleurs l'expérience qu'a la République démocratique du Congo en matière d'Ebola, puisque frappé 7 fois. Et pouf, il annonce la création d'un centre interdisciplinaire, non pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'Afrique et tous les autres pays nécessiteux. C'est seulement sur ce point-là que je suis resté un peu dubitatif. Une annonce de plus par les chefs de l'État. Ça veut dire, il a dit au mois d'octobre, mais je voudrais que l'opinion apprenne à comprendre le discours de Joseph Kabila. Le mois d'octobre dont parle Joseph Kabila peut être effectivement octobre qui vient
dans une semaine,
dans
ou deux
une
semaines.
Semaine, ça peut être un mois d'octobre selon la pensée de Joseph Kabila qui peut être un octobre idéal et non pas un octobre idéal.
Comment vous lisez dans la pensée du chef de l'État?
Je fais une interprétation. personne ne peut m'interdire de faire cette interprétation, d'autant plus qu'il y a des précédents qui puissent faire en sorte que...
Là, vous faites allusion à l'annonce de la mise en place du gouvernement de cohésion nationale ?
Non, pas seulement le gouvernement de cohésion nationale, mais puisque le chef de l'État a bien vendu la République démocratique du Congo, donnez-moi deux secondes pour parler de certains points sur lesquels on l'attendait, où il ne s'est pas prononcé. Paul a cité notamment la question de la révision constitutionnelle. Silence cimetière. Pourquoi ? Deux interprétations. Peut-être Joseph Kabila pense qu'il est président au pouvoir. Il a encore son mandat. La question de révision constitutionnelle, de sa représentation ou non, n'est pas à l'ordre du jour. Ou, deuxièmement, il pense que, il l'a dit quand il annonçait les élections, que prendre position risquerait de basculer l'équilibre sociétal, l'équilibre interne de notre pays, et qu'il mettait le cap sur l'essentiel.
Merci. Madame Solange Lusiku Simire, éditrice du journal Le Souverain, paraissant à Bukavu, Sud Kivu, et deuxième vice-présidente nationale de l'UNPC. Vous avez suivi Paul Diakese et Luc Mikomo Kabongat, qui affirment que le chef de l'État a prononcé son discours, mais il n'a pas dit ce que l'opinion attendait de lui. Comment vous analysez cela?
Oui, je pense que je suis vraiment du même avis que mes prédécesseurs, parce que je suis étonnée, et je pense que je ne suis pas la seule Congolaise à être étonnée, parce que de mon côté, quand je suis l'état serein dans lequel le président de la République prononce son discours, je me dis, est-ce que lorsqu'il était devant cette tribune-là, est-ce qu'il a oublié qu'il y a de fortes agitations au Congo par rapport à la question de la révision de la Constitution? Et donc, personnellement, je ne trouve pas vraiment du nouveau dans ce discours, car je, comme tous les autres, nous restons sur notre soif quant aux questions d'actualité qui continuent à susciter des débats dans les pays. C'est vrai qu'il a bien fait de faire le marketing de notre pays, mais nous ne devons pas quand même nous cacher les visages lorsque nous devons nous présenter comme si tout allait mieux dans notre pays, au moment où le monde entier sait qu'il y a des agitations autour de certaines questions. Et je pense que le contenu de son discours, si je dois le récupérer à moi comme citoyenne congolaise, je pense que chaque citoyen congolais et toutes les autres structures associatives doivent travailler à produire un nouvel élan pour cette République. Sans complexe et sans fier. Nous ne devons pas nous fier sur nos origines. Moi, je suis de telle province, je suis de l'autre, je suis de je ne sais pas où. Nous devons d'abord être fiers du potentiel de notre pays et nous devons innover. Et par rapport aux élections de 2016, si le calendrier est maintenu, tant mieux. Mais qu'en est-il maintenant de préparation?
Il faut rappeler qu'il n'y a pas encore de calendrier pour les élections 2016.
Parce que les élections locales, on peut se poser la question de savoir si les élections locales auront lieu en 2015. Pourtant, elles sont indispensables et les partis doivent être porteurs de véritables projets à présenter à la population.
Madame Solange, vous êtes dans l'est de la République démocratique du pays, une partie du pays qui a connu pendant longtemps des conflits armés. Comment vous analysez le propos du chef de l'État par rapport à la consolidation de la paix? Il a dit, la RDC est un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour.
Bon, je ne voudrais pas que les auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent à travers les pays pensent que je suis une citoyenne révoltée, que je suis ceci ou cela. Mais je me dis, par rapport au fait d'être debout, il y a à boire et à manger. Hein? On est debout lorsque tout va bien et mieux autour de soi, parce qu'il y a encore cette gangrène-là qui concerne les questions sécuritaires à l'est du Congo. Et donc, quand il parle du Congo qui est debout, peut-être il a beaucoup plus pointé du doigt les avancées qui sont visibles en termes de réhabilitation et construction des infrastructures. Peut-être il a, comme il le dit lui-même, par rapport à notre monnaie et par rapport à d'autres questions, mais par rapport à la question d'insécurité à l'est du Congo, je ne pense pas que nous soyons déjà debout. Je me dirais nous sommes peut-être un peu, comment dire, entre être debout et être à genoux, peut-être au milieu. Nous ne sommes pas totalement debout et nous devons encore fournir des efforts. Non pas seulement que c'est ceux qui sont aux commandes qui doivent fournir des efforts, mais même nous, populations, là où nous sommes, nous devons fournir des efforts pour aider notre pays à se relever et à être vraiment debout.
Merci Paul Diakhaté. Sur le plan économique, le chef de l'État soutient que la RDC est un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche des zéro et un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine. Et en RDC, on parle de 8,5%, ce qui est tout à fait évident. Mais le débat aujourd'hui, c'est celle de savoir comment ces performances économiques peuvent avoir une incidence, n'est-ce pas, sur les vécus quotidiens de la population.
Nous attendons l'indice de la pauvreté. Quand nous serons classés, à quel niveau là encore, nous n'avons pas l'habitude de nous fier au discours officiel. C'est-à-dire qu'un discours officiel, il faut chercher à le gratter. C'est vrai qu'économiquement, nous sommes forts d'après le discours chef de l'État. C'est aussi le même discours de tous les ministres, du Premier ministre. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui sont dans les écoles, il n'y a pas les bancs, pas les tables noires.
Avec une croissance de 8,5%.
C'est facile à dire, mais il faut que cela soit visible. Parce que s'il n'y a que Luc qui peut construire une maison à 10 étages et que moi je dors dans une bicoque, je ne dirais pas que moi et Luc, on habite le même pays.
Il y a un problème de répartition de richesse.
Il faut poser la question à la maman qui vend des arachides en Gaba. Comment elle trouve? Est-ce que la situation a changé? C'est pas un ministre. Premier ministre, c'est pas le train de vie des décideurs qui fait le pays, c'est le train de vie de cette maman qui habite à Massina, qui chaque matin va acheter le légume et vendre. C'est elle qui doit nous dire qu'est-ce qu'elle a senti comme changement. Mais encore que, dans ces discours-là, lorsqu'on a vendu la RDC, c'est un peu du com, hein, c'est un peu vraiment de la com, comme nous disons, Luc l'a souligné. Mais est-ce que, en réfléchissant, on va se dire peut-être que en vendant la RDC, en montrant les réalisations, est-ce que ça justifierait un statu quo au-delà de 2016? Alors on dira, mais Lula, qui a fait du Brésil la cinquième puissance du monde, n'a fait que demander et il est parti.
Voilà, Luc Mikomo Kabongat, vous avez dit que le chef de l'État devait dire certaines choses, n'est-ce pas? Évidemment, des questions qui se posent au pays, il devait évoquer cela dans son discours d'hier. Vous pensez que la tribune des Nations Unies était appropriée pour évoquer des questions internes à la RDC?
Oui, je crois. Parce que, prenons le cas du gouvernement des cohésions nationales que le président avait promis dans son discours de clôture des concertations nationales, c'était devant...
En octobre 2013.
Oui, c'était devant les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique international. Ça, il l'a dit. Et le président...
Et devant Sassou Nguesso.
Et devant Sassou Nguesso aussi. Mais le président a vanté notre économie. C'est bien beau. Peut-être... Le président semble avoir oublié que lui-même avait dit « mais maîtrise de cadre macroéconomique qu'on ne voit pas dans l'assiette du Congo », lui-même l'avait dit. Le président a demandé que le gouvernement pose des actions palpables.
Et quelles sont ces actions qu'il faut poser pour que les performances économiques puissent avoir une incidence
d'abord,
sur
les sociales? Quel est le pouvoir d'achat du Congolais? Quel est le PIB? C'est l'un des plus faibles du monde. Alors, lorsqu'on dit, comme disait tout à l'heure ma consoeur, que nous sommes debout, que veut dire debout pour le chef de l'État? Que veut dire une économie dynamique? Que veut dire la construction des infrastructures? Il dit en nombre et en un rythme sans précédent. Mais Guy Maté, le chef de l'État n'est pas sans savoir que dans ce secteur, plus précisément, la corruption y a élu son domicile. Les routes qu'ont construites les Chinois, les routes que construisent l'OVD ne dure à peine que un an, deux ans, tout au plus trois ans.
Vous voyez ce qu'elle fait.
Mais écoutez, monsieur Guy, moi je suis.
Vous citez les cas. Les boulevards triomphales.
Non. Prenez l'avenue de l'université. Prenez l'avenue Kianza. Prenez l'avenue Bypass. Prenez Force. Toutes ces avenues ont été réhabilitées et n'ont tenu que au maximum trois ans. Allez au niveau de Cohydro, croisement boulevard Lumumba, voilà. Puis la route qui progresse vers Lina, ainsi de suite. Ces routes-là ont été construites avec une accélération, une vitesse vertigineuse. Aujourd'hui, on ne peut pas rouler à 40% sur toutes ces routes. Où est parti l'argent ? Dans des poches de gens. Mais le président a bien évoqué ce qui marche chez nous. Mais je crois qu'il y a certains points, vous m'accordez des petites secondes pour relever certains points qui me semblent capitaux sur lesquels le président ne s'est pas prononcé. D'abord, le président, moi quand j'entends le ministre Mende, il dit qu'il y a trop d'interférences de la communauté internationale dans la gestion de notre pays, le président n'en a pas parlé. Le président n'a pas évoqué, par exemple, le problème de crédit carbone, qui devrait constituer un atout majeur pour le décollage de notre pays. Le président n'a pas évoqué la question du trafic illicite d'enfants. Leur destination, c'est où ? Ce sont les pays occidentaux, merci, notamment l'Amérique.
Merci.
Voilà.
Madame Solange Lusikou, sur le plan politique, le chef de l'État affirme que la priorité demeure la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale. Votre analyse ?
Oui, je pense, c'est vrai, ce besoin est là, la consolidation de la démocratie, parce que c'est là que le peuple aura la possibilité de s'exprimer librement et la presse aussi de s'exprimer librement, parce que en tant que journaliste, en tant que presse, en tant que média, nous sommes les vecteurs de la démocratie. Si le chef de l'État respecte le contenu de son discours, nous serons les plus heureux parce que nous serons capables de dire tout ce que nous voyons, de commenter sur tout ce qui se passe au pays, et nous serons capables de contredire même certains propos comme le contenu de son discours là, parce que je me demande si aujourd'hui nous devons descendre avec ce discours à Shabunda, à Mwenga, où la femme ne sait pas aller au champ parce que elle sera violée, parce qu'il y a de l'insécurité là-bas. Je ne sais pas si à cette femme-là, on peut dire que le Congo est debout. Mais si c'est par rapport aux petites avancées que nous saluons, par exemple pour la ville de Bukavu, aujourd'hui nous avons des routes. Nous ne savons pas ces routes vont durer combien de temps, mais quand même, au moins, on a des routes. On a des routes qui sont construites, qui sont aussi réhabilitées, et on salue cela. Parce que on ne sait pas quand même dire qu'il n'y a rien qui est fait au moment où on palpe, on touche, on voit ce qui est fait. Merci. Même si les efforts ne sont pas encore tels que nous aimerions qu'ils soient, nous pouvons encourager que cette consolidation de la démocratie soit vraiment le cheval de bataille de notre pays. Et lorsqu'il parle du renforcement de la cohésion nationale, moi je pense que quand on parle de cohésion, cela veut dire qu'on a une oreille attentive à ce que les autres disent, même ceux qui ne sont pas de son obédience. Et si nous pouvons, dans les jours qui viennent, nous en tenir à son discours pour lui poser des questions autour de ce qui se fait au pays, si nous aurons cette occasion, si nous aurons cette chance, je pense que nous pouvons, merci, en tant que journaliste, en tant que média, en tant que presse, aider à consolider cette démocratie.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le groupe parlementaire UDPS et allié, ainsi que l'UNC et allié, décident de ne plus prendre part aux plénières qui se pencheront sur l'organisation des élections et sur la révision constitutionnelle. Dans une déclaration faite dimanche dernier, ils demandent aussi à leurs délégués à la CENI de suspendre leur participation aux travaux de cette institution. Ces députés ont dénoncé le non-respect des textes dans la conduite des affaires de l'État. On écoute le président du groupe parlementaire UDPS et allié, Sami Badibanga, au micro des
les deux décisions qui ont été prises, à savoir la non-participation à toute plénière dont l'ordre du jour fera allusion à l'organisation des élections ou encore à la révision constitutionnelle. Et le deuxième point, c'est le retrait de nos représentants de la CENI. Pas le retrait, mais la suspension de toute activité à la CENI. Donc pour le moment, tout est suspendu à la CENI.
Pour quel résultat?
J'espère que le pouvoir pourra comprendre et que nous allons engager des discussions. Des questions plus précises, ce n'est pas un dialogue ouvert, c'est un dialogue dans la perspective des élections. Premièrement, avoir un calendrier global acceptable par tous. Deuxièmement, avoir une loi électorale adoptée par consensus. Et troisièmement, ne pas toucher à la Constitution et ne pas avoir de changement de Constitution.
Est-ce que votre mot d'ordre sera entendu par tous les députés de l'opposition?
Je l'espère bien. On est à un tournant majeur de notre pays.
Luc Mikomo-Kabongatke, éditeur du journal Les Nouveaux Regards et président provincial des CIGNIS, association des communicateurs catholiques, et aussi journaliste à la télévision Congo Web. Comment vous, vous comprenez la décision de ces deux groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale?
Il y a peu, nous disions de l'opposition qu'elle était en train de faire une opposition d'apparat et qu'au fond, ça n'était pas une. Mais je crois que avec ces décisions, l'opposition a pris un tournant décisif et semble s'être réveillée de son profond sommeil. Et je crois véritablement que si tous les représentants de l'opposition qui sont dans le bureau de la CENI se retiraient, ça va poser un problème de quorum et ça va bloquer la CENI. Mais par ailleurs, je crois que l'abbé Malumalu a joué au malin. Vous avez suivi une semaine avant, l'abbé Malumalu a lancé la publication du calendrier global des élections. C'était l'une de recommandations tant de la CENI.
L'abbé Malumalu ou la CENI?
La CENI, par l'abbé Malumalu. Hein, prenons ce qui aime bien la métonymie. Nous prenons la partie pour l'ensemble et l'ensemble pour la partie. Donc, c'est déjà des signes que le bruit que fait l'opposition, c'est pas du brouhaha, c'est des messages qui sont captés. Et moi, je suis heureux que l'abbé Malumalu se soit ressaisi et qu'il ait dit que oui, je vais publier le calendrier global. Et là, ça nous rassure que ce que les autres disent, lui, écoute. Mais dans un passé récent, il affichait des attitudes, excusez-moi, grossières, que les autres qualifiaient d'orgueilleuses, ainsi de suite. Mais là, l'abbé Malumalu vient de donner aussi un signal fort que le message que vous avez émis, je l'ai capté et je l'ai capitalisé. Bref, je vais faire ce que vous m'avez demandé. En d'autres termes, j'ai eu tort et vous avez eu raison.
Paul Diakesse, journaliste indépendant, l'opposition a-t-elle raison de boycotter toutes les plénières sur la révision constitutionnelle et sur les élections? Il y a même des experts qui pensent que c'est des stratégies qui ne payent pas. La politique des HSV.
Je pense qu'il ne revient pas à nous, en tant que journalistes, de dire si l'opposition a raison ou pas. Nous constatons simplement que l'opposition a boycotté, c'est pas ou suspendu, parce que là, en suivant la réponse de Balibanga Mimi Ngumba, il parle de la suspension. Nous constatons qu'ils sont suspendus. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. D'abord, sur la crédibilité de telles prises de position, mais également, est-ce que l'opposition tiendra-t-elle? Et Mimi Ngumba a posé la question, est-ce que tous les députés vont vous suivre? Alors, pour Balibanga, c'est un souhait. Nous sommes habitués depuis plus de 20 ans à des danses, des tangos des politiques, l'opposition également. Il y a toujours des déchirements et même pour la marche de demain, la marche de ce samedi, il y a toujours une frange qui dit nous ne sommes pas partis et pourtant hier ils étaient ensemble. Maté, la politique c'est un terrain de rapport de force. C'est-à-dire ici, pour le camp de ceux qui sont non-révisionnistes, les meneurs sont de l'opposition, les révisionnistes sont de la majorité. De toutes les manières, la partie qui aura, dont le rapport de force pèsera plus que l'autre, l'emportera à la fin. L'opposition peut-être rinquinquée avec la prise de position des catholiques et pense qu'en suspendant la participation au débat sur la révision de la Constitution, ça pourra apaiser. Voyons voir. Et parce que la majorité peut
passé peut débattre de ces points parce qu'il y a la majorité, hein, juridiquement, et quand on voit les textes.
Même sans l'opposition, les forums peuvent être atteints.
Et même d'ailleurs, moi j'y reviens à la question des Mimi, est-ce que tous les opposants sortiront-ils? Ça c'est la grande question, connaissant bien l'opposition congolaise. Donc c'est le rapport de force. Alors si l'opposition tiendra fort, si réellement ils ne seront pas dans la salle, la majorité à un certain moment sera un peu gênée de continuer seule. Mais lorsqu'on sait qu'ils doivent gagner 13 000 $ et que la plupart, ils n'ont rien à faire sauf la députation, alors je vois très mal qu'ils puissent tenir longtemps. Alors, s'ils vont tenir longtemps, c'est que l'opposition a mûri, a mûri. Mais une chose restera sûre, le rapport de force, là où ça penchera plus, le jour où la majorité va se rendre compte que le rapport de force est en sa défaveur, la majorité n'ira plus avec le schéma de la révision de la Constitution. Mais si le rapport de force est toujours favorable à la majorité, ne soyez pas étonnés, il ne faut pas rêver. Elle passera en force et on va revoir la Constitution.
Madame Solange Lusikou, l'opposition ne comprend pas que pendant qu'une loi électorale est en vigueur, on propose trois nouvelles lois, alors elle se demande laquelle de ces trois lois va abroger celle qui est en vigueur.
Oui, moi j'aimerais beaucoup plus parler de cette attitude-là de l'opposition. Je me rends compte que c'est encore l'histoire qui revient. Tout comme les pannes des mamans, les pannes que nos mamans ont portées lorsque nous étions tout petits, ce sont ces pannes-là qui reviennent aujourd'hui. L'histoire de la politique au Congo revient également. Parce que ça rappelle l'époque de Mobutu avec Tshisekedi dans les années antérieures. Et le cas aujourd'hui de Vital Kamerhe, l'INC, Kabila, majorité présidentielle d'un côté. On a donc des leçons. D'un côté, on a Tshisekedi qui a beaucoup œuvré aux côtés de Mobutu, le président fondateur, et ensemble ils ont produit beaucoup de documents, la révision de la Constitution, les manifestes de l'Ancelé, et j'en passe. Et la même chose, on l'a vu aussi avec Vital Kamerhe, et qui nous a fait avaler Joseph Kabila avec un bon marketing politique lors des campagnes présidentielles de 2006. Et la vraie source de ce repas, c'était les fameux livres « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila ». On dirait un mariage qui ne se basait que sur les meilleurs. Pour nous, c'était une sorte de déification, mais d'un coup, tout comme Tshisekedi avait changé d'un coup, lui aussi, il a divorcé d'un coup. Et maintenant, aujourd'hui, le peuple que nous sommes comparables, je dirais, à un boa. Un boa qui a avalé une grasse chèvre et nous n'avons pas du temps pour le digérer. Et donc si nous devons revenir sur la question des groupes parlementaires qui choisissent cette politique-là de la chaise vide, je pense que nous devons nous rappeler le boycott des élections par Tshisekedi en 2006 avec ses militants. Personne, ni lui ni ses militants ne se sont retrouvés. Nous devons aussi nous rappeler de l'autoproclamation en 2011 avec comme phrase à la fin de son discours que le peuple attend ce mot d'ordre. C'est aujourd'hui, nous sommes en 2014, nous attendons toujours ce mot d'ordre-là qui n'arrive pas. Merci. Moi, je pense que le fait de décider de suspendre leur prestation, leur participation aux plénières, ce n'est pas une décision sage. Merci. Parce que la leçon que nous avons tirée de l'époque de Mobutu, Tshisekedi s'était retiré, il avait boycotté des choses, mais Mobutu avait continué à régner.
Merci madame.
Aujourd'hui, l'opposition peut toujours décider de se retirer ou de sa participation, mais la majorité va continuer à régner. C'est comme au Burundi, voisin.
Merci Luc Mikomo. L'opposition peut ou ne pas être là. L'Assemblée va siéger parce que le quorum sera atteint.
Le quorum sera atteint, mais il faut faire attention. En politique, il faudrait que la majorité parle, mais que l'on écoute l'opposition. On ne dirige pas par défi. Si la majorité fait les choses par défi, elle sera à un moment donné bloquée par la minorité qui est l'opposition.
Merci, c'est la fin de cette émission. Sylvain Bauer était à la technique, Berry Franklin Louchak à la réalisation. Sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué, devant ses micros, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.